He's not paying 2%, and he should be paying 2%. It's Canada. They have money, and they should be paying 2%. So I called him out on that, and I'm sure he wasn't happy about it, but that's the way it is.
Donc ça, c'était Donald Trump qui disait, écoutez, le Canada devrait payer 2% de son budget en dépenses militaires, et j'ai signifié à Justin Trudeau, puis il n'était pas content.
Il n'était pas content, et on a vu les résultats de, disons, cette intervention-là du président Trump. Parce qu'il faut comprendre que ça s'est passé au sommet de l'OTAN. Tu avais Donald Trump à côté de Justin Trudeau, et le président américain a carrément, je ne dirais pas embarrassé le premier ministre canadien, mais disons, lui a mis de la pression en public en lui demandant « Combien est-ce que vous dépensez de votre PIB? Est-ce que vous respectez la cible de l'OTAN? »
Le PIB, pas le budget. Ouais.
C'est ça. Et Justin Trudeau ne voulait pas répondre à la question parce que, sur le fond, Donald Trump, et je sais que tu n'aimeras pas ça que je dise ça, là, mais il a raison. Le Canada ne paye pas son 2% et c'est un engagement qui a été pris de façon formelle par tous les pays membres de l'OTAN. Et la réalité, c'est que le Canada, tout comme l'écrasante majorité des membres de l'OTAN, ne paie pas le 2% et ce, depuis des années. Mais sur la forme, évidemment, c'était très loin des diplomatiques de la part de Donald Trump. Donc, Trudeau, clairement, n'a pas apprécié. Et quelques heures après coup, on l'a vu sur une vidéo qui est évidemment devenue virale depuis, se moquer de Donald Trump en l'absence du principal intéressé. Donc,
c'est moqué gentiment.
Gentiment.
OK?
Gentiment.
Je veux dire, il a imité la face de ses conseillers quand Donald Trump a dit ce qu'il a dit, puis il a fait un point de presse qui était interminable. Mm-hmm. Il dit, bon, on voyait la mâchoire de ses conseillers qui tombait à terre. C'est à peu près tout ce qu'on a entendu.
Absolument.
Mais pour un homme qui ne peut pas vivre avec la moindre critique...
C'est sûr, sauf qu'écoute, il y a quand même plus que ça. C'est dans un contexte aussi où, rappelons-nous, ça fait pas si longtemps que ça. Il y a un an et demi, à Charlevoix, autre sommet international où ça finit dans la bisbille entre Trudeau et Trump. Tu sais, écoute, c'est quand même notre plus important partenaire commercial, c'est notre voisin. Et disons-le très franchement, ne serait-ce qu'au niveau de la défense du pays, là, on se parle de l'OTAN, de la défense, de la sécurité, on en a besoin des États-Unis. La job du premier ministre canadien, c'est aussi de faire tout ce qui est en son possible pour avoir de bonnes relations avec le voisin américain. C'est, à ce niveau-là, là,
Mais là-dessus, je te rejoins, Raphaël, parce que qu'importe ce qu'on pense de Trump, ce qu'on pense de ses politiques. Puis je lisais tantôt, il y a un sondage, de 8 Canadiens sur 10 sont en désaccord avec le président Trump. Moi, je trouve que Trudeau s'est mis dans une position extrêmement délicate. Il devrait jamais, 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 sauf dans sa chambre à coucher, les lumières fermées, avec Sophie, dire ce qu'il pense de Donald Trump. Parce que l'homme est extrêmement sensible à toute forme de critique. En fait, si tu ne liches pas le derrière, ben pour lui, c'est comme une critique.
Et en fait, ce qu'on a vu comme réaction de plusieurs politiciens canadiens aujourd'hui en condamnant Justin Trudeau, c'était parce que justement, on anticipait la réaction potentiellement intempestive de la part de Trump. Oui. Notamment, écoute, la possibilité, évidemment, ça ne s'est pas fait pour l'instant, mais la possibilité qu'il se lève demain matin en se disant « C'est ça que vous voulez, ben, je réimpose des tarifs douaniers sur le Canada. »
Ben oui. Puis là, tous les travailleurs de l'industrie, de l'aluminium, de la forêt, etc., vont se retrouver sur une corde raide parce que le président des États-Unis n'est pas de bonne humeur. Moi, je trouve que vraiment là-dessus, le PM, moi, j'ai déjà dit, Raphaël, je trouve qu'il est un peu brouillon des fois. Il fait pas ses devoirs, puis là-dessus, là, il a voulu faire le clown, puis ça l'a rattrapé.
Surtout que c'est pas la première fois avec Donald Trump. Ouais. Fait qu'à un moment donné, on apprend de nos erreurs normalement.
OK, le processus d'impeachment là, qui entame un nouveau chapitre à la Chambre des représentants.
Oui, écoute, on a eu une journée de témoignages devant le comité judiciaire de la Chambre. On sait que les témoignages devant le comité du renseignement se sont terminés il y a plusieurs jours. Là, c'est une nouvelle phase qui commence devant un nouveau comité de la Chambre. Donc, les démocrates, comme dans le premier cas, contrôlent le processus. On fait venir aujourd'hui des experts constitutionnalistes sur l'impeachment, comment ça fonctionne et surtout, est-ce qu'on devrait aller de l'avant dans le cas de Donald Trump? Ce qui est intéressant, c'est que ça arrive dans un contexte où hier, les démocrates de la Chambre ont publié leur rapport sur l'enquête jusqu'à ce jour. Ça fait à peu près 300 pages et c'est divisé en deux grosses sections majeures. La première section porte sur la conduite du président vis-à-vis l'Ukraine. Ça, on s'en est assez parlé et c'est assez évident. D'un côté, les démocrates voient ça comme clairement une tentative de retour d'ascenseur. Donald Trump voulait que l'Ukraine s'engage à enquêter formellement sur Joe et Hunter Biden. En retour de quoi? L'aide militaire, l'aide diplomatique qui leur était promise, qui leur était destinée, allait leur être octroyée. Les républicains, eux, de leur côté, nient à peu près catégoriquement en disant « Bien, l'Ukraine a eu au final cet argent-là, cette aide-là, même s'ils n'ont pas annoncé d'enquête. Je te vois sourire. Évidemment, quand on lit entre les lignes, c'est assez clair qu'il y avait une tentative de retour d'ascenseur, mais je ne pense pas qu'à ce stade-ci, il y a grand monde qui est contre l'impeachment du président qui va changer d'avis sur ce point-là. La section qui est plus intéressante, je dirais, parce qu'elle est peut-être plus épineuse, c'est la question de l'obstruction à l'enquête. On s'en parlera davantage demain. Mais il y avait un expert qui avait quelque chose d'extrêmement intéressant à dire là-dessus. Et on est dans une zone très, très grise là-dessus. Donc, écoute, je te garde le suspense jusqu'à demain.
Garde-moi le suspense, mais je te le dis, ça va être intéressant de voir dans quelques années, là, comment les Républicains vont se venger quand il y aura un président démocrate à la Chambre. Tu le sais comme moi, là, c'est des teigneux. Bien hâte de voir. Merci beaucoup, Raphaël. On te retrouve demain, 16h57. Au retour, Luc Ferrandez s'en vient, Pierre-Yves McSween s'en vient et les accros de la télé s'en viennent. On finit l'émission en parlant des 30 ans du 6 décembre 1989.